Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Le mardi 13 juin dernier, un jury se réunissait à Orléans pour élire le gagnant du concours de nouvelles organisé par le CROUS Région Centre Val-de-Loire. Nous allons à présent écouter un petit reportage réalisé par Lucas Santerre avec les membres du jury qui se réunissaient le mardi 13 juin dans la résidence des Dahlias pour élire le gagnant et la gagnante du concours de la nouvelle organisé par le CROUS et dont le thème était la métamorphose.
On va continuer l'émission avec un petit reportage que Lucas a organisé. Ça concerne
le concours de nouvelles organisé par le CROUS national. Et hier, c'était le jury au niveau local. Donc 18 nouvelles ont été jugées et lues par un journaliste de la Nouvelle République, notre fameux Daniel Begdad, national de Radio Campus Orléans, et également la responsable du service éducation et société des médiathèques d'Orléans, et deux membres du CROUS Blois et du CROUS Orléans. Donc c'était une rencontre assez intéressante, et on écoute tout de suite Laurence qui va nous parler de ce dispositif organisé par le CROUS.
Alors bonjour, je suis Laurence Guilbault, je travaille au CROUS Orléans Tours, au Pôle Culture à Blois et je m'occupe des concours, sauf le concours musique. Donc aujourd'hui c'était le jury de concours des nouvelles. Alors cette année c'était le concours Métamorphose au singulier et tous les étudiants de France, des DOM, tous les CROUS, des 26 CROUS ont travaillé sur ce thème. Par le biais de leur plateforme et services étudiants.gouv. Et le CROUS Orléans Tours, lui, a fait le choix d'un jury pluridisciplinaire qui soit lié avec l'écriture. Donc c'est pour ça qu'on avait Radio Campus dans notre jury et qui est en fait construit selon la ville où il se situe. Comme on est en fait à l'échelle académique, on fait ce concours, ce jury à l'échelle académique. On se déplace. Cette année, c'était Orléans avec la médiathèque d'Orléans, la BU de Lettres, Radio Campus, le média quotidien régional La Nouvelle République, la voix de notre président élu étudiant. Et puis voilà, donc ça compose un jury. Moi, je crois que les étudiants étaient vraiment inspirés. On a une vingtaine de nouvelles à l'échelle académique et c'est vrai que le thème métamorphose, c'était un peu pour eux l'occasion de s'emparer de l'idée qu'ils avaient à dire, parfois de combats personnels. Donc on a eu des thématiques sur la religion, sur l'inceste, sur donc des choses un peu noires. Des souhaits d'avance ou de progrès sociétaux, on ne sait pas. En tout cas, c'était assez revendicatif cette année, c'est vrai, sur le thème métamorphose.
Et quelle va être la suite de ce concours ? Donc là, c'était à l'échelle académique. Et ensuite, où est-ce qu'on pourra retrouver les lauréats du Centre Val-de-Loire ?
Alors, on les retrouve sur messervicesétudiants.gouv. Donc, c'est messervices.étudiants.gouv.fr. Sur étudiants.gouv aussi, sur les réseaux sociaux du CROUS. Nos deux lauréats régionaux seront sélectionnés en octobre. Feront partie de la sélection en octobre en national. On sait aussi que l'année prochaine, les étudiants vont travailler sur le thème espoir au pluriel. Donc on donne rendez-vous à tout le monde l'année prochaine. Dès la rentrée, à partir d'octobre, pour travailler sur Espoir, sur la plateforme messervicesétudiants.gouv.
Merci beaucoup Laurence, et puis bonne journée.
C'était Laurence du CROUS d'Orléans-Tours qui nous a parlé du concours de nouvelles. Et hier, il y a eu lieu le jury pour sélectionner les deux nouvelles qui vont s'affronter au niveau national.
J'ai à présent le plaisir de vous faire écouter l'interview de Tonda Dielvich, gagnant du concours de la nouvelle 2023 organisé par le CROUS Région Centre Val-de-Loire.
Parlez-nous justement de votre rapport à l'écriture. comment dire, je pense qu'avec l'écriture, on est capable d'exprimer beaucoup de choses, beaucoup de sentiments. Et pour moi déjà, je fais dans un style, je suis plus dans le mouvement réaliste. C'est-à-dire que j'écris en général les histoires du quotidien, ce que l'on vit, pour pouvoir critiquer la société, mais dans l'objectif de faire en sorte qu'elle s'améliore.
Depuis quand dure cette relation entre vous et l'écriture? Depuis quand existe-t-elle?
Ben, on dirait depuis le lycée. Depuis le lycée, parce que au départ, j'ai commencé à écrire des textes de rap. Et j'aimais bien. Il y en a qui appréciaient bien aussi ce que j'écrivais. Il y a des camarades qui me complimentaient en disant que j'avais une belle plume. Et donc, ça m'a conforté dans mon idée d'écrire. Après, j'ai arrêté d'écrire des textes de rap et j'ai voulu écrire des livres.
D'accord, parce que c'est ce que donc vous disiez tout à l'heure, que l'écriture vous servait aussi, enfin, vous vous servez de l'écriture pour dénoncer des injustices de ce monde, c'est ce que vous m'aviez dit ?
Oui, c'est cela, pour dénoncer les injustices, hein, pour être le porte-voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Et je revendique une écriture qui pourrait être de temps à autre militante. Vu que l'une des fonctions de la littérature, c'est aussi de divertir, et bien de divertir par le plaisir du texte, si c'est bien écrit.
D'accord. Donc, vous êtes entré dans l'écriture plutôt par l'expression orale, la poésie. Enfin, le rap est un mélange à la fois d'écriture, mais d'écriture qui est faite pour être parlée, oralisée. Et vous avez, comment dire, abandonné cette affaire ou vous écrivez encore du rap?
Non, je n'écris plus de rap. Je n'écris plus de rap depuis longtemps déjà. J'ai abandonné cette voie. J'ai commencé à écrire des nouvelles. Et voilà, je ne fais que ça. Bon, après, comme je vous le disais un peu avant, c'est que ma thèse m'a pris tellement de temps qu'il y a longtemps, je n'avais pas écrit une ligne. Et c'était aussi un défi pour moi que de me remettre à l'écriture après tout ce temps.
Alors parlons-en justement de cette nouvelle, dont je rappelle vous avez obtenu le premier prix donc régional pour ce concours de nouvelles organisé par le CRUZ Région Centre-Val de Loire. Alors sans nous parler forcément de l'intrigue ni même de son dénouement, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez procédé pour écrire cette nouvelle ?
C'est celui de la métamorphose. Et au départ, je me demandais comment est-ce que je pourrais écrire sur un thème pareil. J'avais plein d'idées jusqu'à ce que, en réalité, je dois vous dire que l'écriture a ceci d'exceptionnel, c'est que même quand on n'a pas d'idée, on se met devant une feuille et on se laisse guider. Et c'est un peu comme ça, je me suis mis devant ma feuille et je me suis laissé guider. Il y a des idées qui venaient, je faisais le tri au fur et à mesure et voilà. La puissance de la création.
Combien de temps y avez-vous passé à peu près? En une nuit, vous l'avez faite ? Vous l'avez réalisée en une nuit ?
Oui, toute une nuit pour l'écriture et on va dire une semaine pour la réécriture. Parce que Je suis un adepte de, Hemingway qui disait, il disait en anglais, white drunk, rouge sobre. C'est-à-dire que quand vous avez écrit, vous écrivez comme si vous êtes totalement sous et il faut corriger.
D'accord.
Comme si vous étiez lucide. Et ce que je pratique, c'est effectivement ça, c'est que j'écris en une nuit, et je laisse le texte reposer pendant une semaine, et après, je commence la réécriture. Et donc, c'est ainsi que j'ai procédé.
D'accord. Est-ce que justement, quand vous écrivez, vous êtes dans une sorte de transe hypnotique, dans un état second, parce que vous me dites que vous écrivez la nuit, une période de la vie pendant laquelle normalement les corps sont au repos, mais les esprits ne se reposent jamais, puisque peut-être qu'ils se situent entre le rêve, une sorte de lucidité consciente, un rêve éveillé. Est-ce que vous êtes dans ce genre d'état propre que connaissent souvent les écrivains?
Oui, je pense que c'est l'état recherché. C'est la condition recherchée pour pouvoir écrire. Après, il peut arriver qu'au moment où on se pose devant sa feuille, rien ne se passe. Et à partir de là, on abandonne. Mais effectivement, on est à mi-chemin entre une sorte d'hypnose et une sorte d'éveil. On est à mi-chemin et c'est, je pense, à partir de là qu'on parvient à pouvoir produire quelque chose.
Bon, vous nous l'aviez dit tout à l'heure, vous allez donc soutenir votre thèse pour juin 2024. Concernant votre hobby, votre passe-temps, votre passion pour l'écriture, est-ce qu'il y a, d'autres projets qui vont suivre maintenant que vous avez gagné cette nouvelle? Que vous avez remporté ce concours, pardon? Est-ce que vous avez d'autres projets que vous démarrerez une fois votre thèse soutenue?
Oui, là, j'ai vraiment envie de me consacrer à l'écriture. J'ai envie d'écrire. Déjà, j'ai des choses dans mon tiroir, notamment un recueil de nouvelles qui reste à parfaire, que je n'ai pas touché depuis longtemps, comme je le disais. Mais je vais le dépoussiérer là très bientôt. Et oui, j'ai envie d'écrire, me consacrer à cela désormais.
Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Monsieur Tonda?
Déjà que je puisse arriver au bout de ma thèse et puis peut-être que vous me lirez dans l'avenir, qui sait.
C'est ce qu'on souhaite. Eh bien, très bien. Merci Monsieur Tonda. Eh bien, bon courage. Voilà, on vous souhaite de remporter votre thèse et bien évidemment de lire d'autres nouvelles. Celle-ci, elle a fait l'unanimité du jury, bien évidemment, puisque vous avez remporté le premier prix du concours régional de nouvelles organisé par le CROUS. Je rappelle donc que vous appelez Monsieur Dielwich Tonda, que vous êtes étudiant en lettres à la fac Rabelais de Tours. Et que des nouvelles seront à venir. En tout cas, voilà, c'est un auteur à suivre, Dielwich Tonda. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Et je vous propose maintenant une lecture de la nouvelle intitulée Le curé, dont l'auteur est Tonda Dielwich. Le curé. Le jour venait à peine de poindre quand l'abbé achevait son bénédicité. En ce quantième du mois, c'est-à-dire le 25, sentait-il son corps l'abandonner. Les symptômes étaient toujours les mêmes. D'abord une forte fluxion de poitrine avec des afflictions à intervalles réguliers, puis une douleur qui parcourait son échine en allant du haut vers le bas et inversement. Enfin, il sentait en lui comme un flot de sang qui affluait de ses entrailles et s'irriguait tout le long de ses cuisses. Sa réaction aussi fut toujours la même. Serrer sa poitrine de ses deux mains en croix, s'allonger pour supporter la douleur intolérable qui torturait son échine et enfin, avec un linge trempé à l'avance, il essuyait cette sensation algide de liquide qu'il avait entre les jambes. L'abbé entrait dans ses 18 ans. C'est le genre de personne dont on a l'impression qu'elles sont nées sous des constellations différentes du commun des mortels. Visage fin, étiré, visage de fille, dirait-on, cheveux en boucle, et un physique tel un poème en avalanche. Voilà tout pour son croquis. Sa crise passée, il devait se préparer, car ce matin, une messe d'action de grâce à célébrer l'attendait. Un simple couloir froid menait à la sacristie. Il sortait toujours pour préparer le calice. Face à lui, une armoire d'où il tirait un calice argenté qui semblait daté. Dans le même endroit, pouvait-on voir d'autres objets sacrés, des huiles d'onction, des croix, des cierges notamment. Dans la salle, des chants liturgiques avaient commencé. La paroisse était inondée en ce jour. Le prêtre apparut avec sa soutane immaculée et cette démarche nonchalante. On aurait dit quelqu'un qu'on poussait de derrière. En ce dernier dimanche du mois de mai, la paroisse avait presque reflué du monde. L'abbé arriva devant l'autel et l'ensemble des fidèles se leva. Il fit une génuflexion et marmonna des mots en latin. Le soleil était là aussi et lançait des nappes jaunes qui réfléchissaient sur le front de la Sainte Vierge à gauche de l'autel et laissaient penser à l'Annonciation. Le prêtre dit la messe avec l'humilité qu'on lui connaissait depuis quelque temps. Ses gestes, ses déplacements, ses variations de voix provoquaient toujours une vive émotion à son public. Après un long prêche et la lecture des oraisons, il se retourna vers l'assemblée et de sa main droite tendue lança « Allez dans la paix du Christ !» La foule répondit unanimement
« Nous rendons grâce à Dieu !»
L'abbé s'empressa de quitter la salle. De son pas lent, la soutane immaculée disparut. Durant 3 jours, il devait se cloîtrer dans sa chambre et souffrir le martyre d'un mal inconnu. Dans une chambre d'un noir total, l'abbé déchu de sa soutane se frottait la peau avec force, se retournait au sol à présent, se pliait en deux et avait soit sa poitrine, soit son échine, soit son abdomen qui le faisait souffrir. Il vivait ici avec Marinette, vieille femme de 70 ans, dont la peau du visage tombait déjà et le corps semblait incliné vers la tombe. Cependant, toutes ses facultés mentales intactes. Elle connaissait son petit prêtre, ainsi qu'elle le nommait. Elle l'avait vu arriver comme tous les autres et l'avait naturellement pris comme son fils, sa fille ou les deux. Au début, la pauvre vieille ne comprenait pas. Elle pensait le prêtre en jeûne à le voir s'enfermer ainsi. Puis elle constata que cela se produisait chaque mois, invinciblement le 25. Ainsi, elle alla prêter un jour l'oreille à la porte en chaîne qui laissait difficilement échapper des soupirs, des gémissements. Peut-être se mutilait-il pour expier une faute de jadis, pensait-elle. Mais 3 jours après, quand elle le voyait, aucune écorche sur son épiderme de jeune adulte. Il s'enfermait comme cela, 3 jours durant, sans manger, sans boire. Les gens du village savaient, du moins se doutaient que leur curé devait souffrir de quelque mal. C'était une petite contrée d'à peine 300 âmes. Tout se savait. Et comme il est d'ordinaire dans des lieux aussi clos, on affectionnait les ragots, un peu comme le télégueul antillais. On savait que chaque 25 du mois, s'il y avait messe, le prêtre se présentait, mais les 3 jours suivants, il était indisponible pour les messes ou même pour ce qui était du confessionnal. Il va sans dire que cette période du mois alimentait allègrement les foyers. Déjà, sa venue avait surpris tout le monde. C'était la première fois qu'on avait un curé aussi jeune. Même pas, sans vécu, sans rien, un enfant carrément. Pas aux 2/3 de ses 18 ans. Mais il avait su séduire avec ses manières délicates, fragiles et sa disponibilité. Aussi, il savait l'évangile comme s'il avait 30 ans de service. Cela acheva de convaincre la contrée, laquelle restait malgré tout attentive à la santé de ce jeune serviteur du Créateur. On était le 29 au matin quand le jeune curé sortit de sa cellule. Ses yeux furent éblouis par l'astre diurne qui, au zénith ce jour-là, envoyait ses rayons fugaces comme pour l'accueillir. Marinette le vit, pâle. Elle ne posa point de questions. La bonne mine du petit prêtre l'avait contenté. Quant au curé, aussi maternel que paraissait la vieille, il n'aurait pu rien dire. Auquel cas, les gens sauront, jugeront. Ici, il serait maudit, conspué, traqué comme une bête, persécuté, raillé, chassé, proscrit. C'est péché que d'avouer ces choses-là en notre temps. Le jugement des hommes surpasse celui du Créateur. Matin, diablerie, profère-t-il. Mais alors quoi? Était-il né comme ça? Va-t-on le punir pour quelque chose qui ne vint pas de lui? Après tout, il n'a raturé le respect de personne. C'est ainsi. Après cela, le curé reprenait sa vie, passant de maison en maison pour maintenir son peuple en alerte. Les moments de messe ne sont que le prolongement d'une foi entretenue, aimait-il à dire. Il allait dans ces foyers où tout le monde se ressemblait comme s'ils eussent été frères et sœurs du terrain. On accueillait le prêtre avec bienveillance, il était aimé quand même. La tournée du jour n'était pas sans but. Il demandait aux populations de se tenir prêts pour la grande cérémonie de baptême prévue pour les enfants de la catéchèse. En effet, chaque année, la paroisse organisait une cérémonie grandiose pour une dizaine d'enfants et le curé comptait perpétuer la tradition. Il nourrissait même quelques idées nouvelles pour l'occasion. Quand il fut informé de cet événement, son premier réflexe fut de consulter le calendrier pour voir à quelle date elle aurait lieu. C'était le 21 juin. Son inquiétude mourut aussi vite qu'elle s'était éveillée. Il serait présent et dans une très bonne condition. Mais l'homme propose, Dieu dispose et le diable s'interpose. Juin arriva. On était à la veille de la cérémonie, c'est-à-dire le 20. Les préparatifs avaient débuté pour répondre aux impondérables. Selon l'usage ici, les futurs baptisés quittaient leurs parents la veille au matin pour loger dans la paroisse et ne ressortir que le lendemain, jour de la cérémonie. Les murs de la petite église étaient parés de ravissantes étoffes blanches, signe de la pureté et de l'innocence. Les uns coupaient des herbes rebelles qui jonchaient les allées latérales de la paroisse, quand les autres astiquaient avec des balais les carreaux forme baroque. Aux larges fenêtres, de multiples fleurs pendaient et se mariaient harmonieusement avec les images des saints sur les fresques. Les deux immenses battants de portes en chêne avaient été habillés de deux grands rideaux pourpres qui touchaient sol et sous le coup du vent s'élevaient comme le rideau qui se fendit en deux derrière Ponce Pilate après son dernier verdict. L'ambiance était au rendez-vous. Certains grimpaient aux échelles pour ajuster des vieux bois, d'autres criaient sous les yeux du curé qui admirait tout cela. D'ailleurs, il n'avait pas assisté à la fin des préparatifs. Se sentant mal, il dut se retirer. Le lendemain, l'ambiance de la veille céda à l'indignation et à la fureur des habitants. Il était 9 heures et la cérémonie n'avait toujours pas débuté. Les murmures se faisaient plus prononcés et des mots commençaient à fuser. Jamais au grand jamais ici, un curé n'avait manqué de célébrer cette messe consacrée aux enfants. On avait accepté du clergé un bambin, il fallait que celui-ci les respecte. Dans le même temps, le curé était enfermé dans sa chambre. En effet, la veille déjà nous disions qu'il se sentit mal. La nuit, le mal survint. Il avait eu un doute car on n'était que le 21. 4 jours d'intervalle, c'est énorme quand même. À 10 heures, la cloche retentit. Son branle fit frémir l'enfant qui se tordait de douleur. Son sang chauffait et des gouttes épaisses de sueur inondaient son corps. Cette fluxion de poitrine se fit ressentir avec une force inouïe, jamais connue auparavant. Il se touchait les tétons, gros à présent comme des seins naissants. Son couloir était attenant à la salle principale. De fait, par l'effet des vibrations, le râle des fidèles venait à lui comme le souffle des préjugés. Il serra ses dents, se mordit les lèvres. Son abdomen venait de recevoir une violente secousse. On sonna à nouveau la cloche. Il était maintenant midi. Le son se fit plus grave. Le jeune prêtre sentait sa chair le torturer sous sa soutane immaculée, laquelle était tout à fait humectée. Marinette vint. Elle expliqua au curé qu'il devait faire un effort et qu'on n'était pas encore le 25, et en ce sens, le mal ne pouvait être pire. Derrière la porte, il lançait des mots hachés, inaudibles. Marinette s'alla calmer les fidèles, revint s'asseoir au seuil de la porte et attendit son petit. Des instants avant la crise, le curé s'était recueilli devant sa Bible, restée ouverte. Les saintes Écritures assistaient à la métamorphose de cet homme dont Dieu lui-même semblait avoir hésité sur la nature de son sexe. Les pas moins sûrs, l'abbé saisit son chapelet. Et la langue coincée balbutia des mots comme des appels au ciel. De tout son être, il fit les 10 premiers grains, puis les 10 suivants. Eussiez-vous cru cela? Le mâle ityphalique s'amollissait, s'atrophiait, il se dévirilisait. C'était la révolte de sa chair interne contre sa chair apparente. Il se roulait au sol, criait à présent. Marinette, assise dehors, attendait patiemment en femme instruite par la vie. Elle avait vu de nombreux curés passer par ici. Elle ne s'effrayerait pas d'un gamin. Peut-être, son démon finira bien par se calmer, même s'il est vrai qu'il avait mal choisi son jour. À l'intérieur, dans une ultime force, le curé écrasa ses genoux contre le sol et dans une secousse violente laissa tomber son chapelet dont il venait d'achever les 10 derniers grains. Au même instant, la cloche donna des coups encore plus graves. Du flot souvent ressenti jaillit du sang avec force comme un long temps comprimé. Il s'effondra dans la mare de sang, hébété, vide. Des minutes après, dans cette chambre embaumée de ce sang qui émanait de ses entrailles, et cette soutane désormais maculée d'une large tache écarlate, le curé n'était plus le même. Il rassembla ses forces, fit sa toilette et sortit. Il était 17h et Marinette était assise à même le carreau devant la porte. Elle se leva prestement, examina cet enfant qui ressemblait à autre chose. Ses lèvres s'étaient amincies, ses cheveux n'avaient plus de boucles mais de longues mèches fines et sa poitrine légèrement protubérante. Le prêtre ne dit mot et s'avança le premier. Sa démarche n'était plus seulement nonchalante, mais saccadée, déhanchée. Il n'emprunta pas son couloir habituel. Toute la journée s'était passée. Soudain, les deux immenses battants de chêne s'ouvrirent, l'assemblée se tourna et regarda le curé. La joie supplanta la colère. On le trouvait différent, mais la liesse avait primé sur les impressions. On gardait cela pour ce soir dans les foyers. Des dizaines d'enfants étaient assis devant l'autel, au premier rang, endimanchés, filles comme garçons. Le curé fit une génuflexion, marmonna des mots en latin, avec une voix, si on l'eût entendue, plus fluide, un timbre léger. Sur l'autel, dans les profondeurs sombres de sa soutane, c'était une femme qui donnait à ses enfants leur première communion. Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.